Bienvenue sur Légende, le seul podcast où les célébrités et les anonymes nous racontent leurs histoires les plus incroyables.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/spoken today.
Podcast. Bonjour, je m'appelle Héloïse Kawaishi, je suis avocate en droit de la famille et je vais vous présenter les anecdotes les plus folles de mon métier.
Eh bien, bienvenue, merci Héloïse.
Merci.
Bienvenue à toi. Il t'est arrivé plein de choses avec ton métier d'avocate en droit de la famille, mais pour donner un exemple, un jour tu as une juge qui pointe quelqu'un du doigt, c'était une dame. Ouais. Est-ce que tu peux raconter cette anecdote pour qu'on comprenne ce qu'on va avoir dans l'émission?
Eh bien, écoute, pendant l'audience, la juge regarde ma cliente et elle lui dit « Vous mentez, madame! Vous mentez, madame !»
Par rapport à quoi ?
En fait, je demandais une ordonnance de protection parce qu'elle était victime de violences conjugales. L'ordonnance de protection a été rejetée, j'ai pas pu faire appel. Pourquoi ? Parce que la cliente n'avait pas assez d'argent et peut-être 2 semaines, 3 semaines plus tard, elle se faisait rouler dessus en voiture par son ex.
Ah, waouh ! Tu vas nous raconter des anecdotes sur ta vie, sur ton métier, comment t'es devenue avocate aussi. Et justement, tu as commencé avocate en 2016, exactement.
Tout à fait.
Tu t'occupes du droit des familles, toi, c'est ça ?
Oui, du droit de la famille. Je fais que du droit de la famille et des successions.
Donc, c'est les divorces ?
Les divorces, l'autorité parentale, les problèmes de succession, les problèmes de nom.
Il y a beaucoup de gens, on en parlera tout à l'heure et tout, mais il y a beaucoup de gens qui changent de nom de famille.
Alors, en fait, il y a eu un changement de loi et depuis environ un an, c'est très facile de changer de nom et de prendre notamment le nom de sa mère ou le nom de son père.
Ah oui ?
Mais avant, c'était beaucoup plus compliqué et on était obligé de saisir le Conseil d'État pour faire un changement de nom. Il fallait justifier d'un intérêt légitime pour changer de nom.
Je me rappelle, ça date d'il y a peut-être plus de 10 ans, mais il y avait des gens qui s'appelaient Monsieur Connard, etc., qui demandaient à changer une lettre.
Mais j'ai fait un TikTok en ce sens sur le changement de nom, justement, parce qu'il y a des noms totalement improbables. Monsieur Nutella, quoi.
T'as eu Monsieur Nutella, non ?
Non, je ne l'ai pas eu, mais c'est des histoires qui sont connues.
Qui existent ?
Mais oui, bien sûr, avec des noms qui posent problème. Monsieur Connard, tu l'as dit, Monsieur Salopard.
C'est dur. Ouais, c'est dur. Pourquoi t'as lancé un compte TikTok avant de parler des anecdotes de ton métier ?
Pour expliquer ce qu'est la profession d'avocat et alerter, éveiller les consciences sur le droit de la famille, parce que tous les jours, je vois des personnes qui viennent en entretien et qui me disent « Mais si j'avais su, je n'aurais pas agi pareil. » Et donc, juste de les éclairer un petit peu en droit de la famille, je pense que c'est indispensable.
Et ça te ramène des clients ? Est-ce qu'il y a des gens qui te découvrent sur TikTok et qui t'appellent après en disant « Tiens, vous expliquez bien, j'aimerais que ça soit vous qui... »
Alors, ça arrive parfois, mais comme la création de mon compte est finalement assez récente puisque ça date de janvier, j'ai encore du mal à évaluer la valeur que ça peut apporter. Mais ce qui est sûr, c'est que ça me donne une image différente des autres avocats. Et ça, c'est intéressant.
Alors, ton cabinet, il s'appelle Passis Lexis Family Law.
Oui.
Il y a même Oussama Ammar qui t'a écrit pour te dire changer le nom de ton cabinet.
Non, pas du tout. Mais c'est que je lui en avais parlé et je lui avais dit, écoute, j'ai choisi ce nom. En fait, j'ai choisi ce nom avec mon père. Mon père qui est prof d'histoire et qui adore le latin, il m'a dit, Passis, c'est la paix. Lexis.
Non, c'est Pax.
Ouais, voilà, c'est ça. Mais bon, il y a une histoire de Gérondif. On va pas se la raconter. En tout cas, je vais pas essayer.
Je le sais parce que j'étais Fort Boyard et qu'il y a marqué Pax, machin. Et à chaque fois, il répète la phrase, il n'y a que la loi, machin.
Etc. Voilà, Lexis, c'est la loi. Family Law, je vais pas te faire un dessin. Et en fait, j'avais pas prévu que mon cabinet marcherait aussi bien. Et je ne m'étais pas vraiment concentrée sur le nom du cabinet. Et donc, j'en ai parlé. Et je lui ai dit, écoute, les gens, ils n'arrivent pas à retenir le nom de mon cabinet. C'est trop long, ils ne savent pas comment l'écrire. Est-ce que je change ? Et il m'a dit, non, tant que tu n'atteins pas un tel niveau de chiffre d'affaires, et ben dans ces cas-là, tu peux attendre.
Tu prêtes serment, c'est comme ça qu'on dit quand on est avocat.
Oui.
C'est intéressant d'expliquer.
Ben oui.
Ça se passe comment quand on prête serment ?
On prête serment. Alors, je t'avoue que ça commence à faire un bail.
Ça fait 7 ans.
Ouais, j'ai prêté serment à la Cour d'appel de Paris. C'est donc la première fois qu'on a le droit de porter la robe d'avocat. C'est quand même un moment important. Parce qu'en fait, avant de prêter serment, d'avoir sa robe d'avocat, ça prend quelques mois parce qu'il te la coupe exactement à la bonne hauteur. Tu choisis tes boutons, tu choisis ta matière. C'est émouvant. Tu te rends vraiment compte du métier que tu vas exercer, des fonctions, de la responsabilité que tu vas avoir. Et puis après, tu es à la Cour d'appel de Paris et dans l'une des plus belles salles au niveau du Palais de Justice. Et tu dis simplement « je le jure ». mais la totalité du serment, je t'avoue que je l'ai oublié, mais les valeurs essentielles, c'est la dignité, c'est la loyauté, c'est bien entendu l'indépendance, c'est le respect du secret professionnel, c'est notre déontologie, en fait, qui est rappelée dans le serment de l'avocat.
Et donc, avant ça, tu as fait un bac plus 5, école de commerce, et après, école d'avocat, c'est ça, à Versailles. Et tes parents, rien à voir, faisaient un autre métier?
Ah bah oui, rien à voir, ils sont profs d'histoire.
T'as pas de frères et sœurs qui font ce métier?
Non, pas du tout.
Ok, tu t'es fait toute seule?
Oui, je me suis fait toute seule.
Aujourd'hui, t'as ouvert ton cabinet. Non, mais c'est bien, c'est agréable d'entendre.
Carrément.
Moi, je trouve qu'il faut donner des exemples aussi, tu sais, envie de faire certains métiers.
Oui, carrément.
C'est ça que ça sert.
Et effectivement, il y a beaucoup d'avocats qui sont issus de familles de juristes au sens large. Notaires, huissiers, avocats. J'ai l'impression qu'il y a une forme de reproduction parfois. Alors, juge, bien sûr.
Il y a plein de lois, tu ne peux pas toutes les connaître, surtout que tu as une spécialité, ouais. C'est le droit de la famille.
Ouais.
Je vais te dire des lois ou des choses qu'on peut faire ou qu'on ne peut pas
Mon
faire.
C'est Dieu.
Ça qui va te deviner, d'accord?
Tu sais combien il y a de codes? Il y en a au moins 30, 40, 50, 70, je ne sais même pas.
De codes? Bah, tu sais que c'est un peu...
Je travaille sur un code, moi, au quotidien.
Oh là là. Bah, tu sais que c'est... En vrai, c'est comme quand tu disais j'ai oublié aujourd'hui ce que j'ai dû dire et tout, mais c'est comme quand tu passes le permis de conduire. En vrai, il y a plein de panneaux que tu oublies.
Quand ah bah parle pour toi, moi je les connais tous les panneaux.
Oui, moi aussi, bien sûr, non, je parle plus des autres, moi toujours. Est-ce que faire un chèque sur un bout de papier toilette ou de sopalin, c'est
possible ? Valable.
C'est une bonne réponse.
Oui, je sais.
Ouais, ben bah, je vois. tu vois que tu sais un peu d'autres choses.
Ouais,
que...
bah attends, on attend
ça, c'est
les
très connu.
On attend les autres.
Et c'est pour vous donner un ordre d'idée.
Même Picasso,
choses.
Je crois, il y a une anecdote qui est très connue, tu la connais. Voilà, il a dit, bah, je vais pas vous faire un autographe sur votre nappe parce que sinon je vais acheter votre restaurant.
Ouais, c'est... Donc, mais il a un peu d'ego, Picasso, sur la fin. Est-ce que c'est le seul, pour information, un des seuls, parce qu'il y a toujours des contre-exemples, qui est devenu connu de son vivant, Picasso, et qui a explosé, et dont la valeur des tableaux a explosé de son vivant. Et à la fin, c'est des choses qui sont connues, il signait des autographes pour payer son restaurant.
Ouais, c'est ça.
Qu'il ne voulait même plus payer ses restos. Il disait, je vous fais, passez-moi une serviette, il faisait un autographe, et ça valait plus cher que le repas. C'est fou.
Voilà.
Hein. Est-ce qu'on peut boire au travail de l'alcool?
Sur des événements, je pense, festifs, oui.
Alors, je ne comprends pas trop cette loi, mais... La loi interdit l'alcool sur le lieu de travail, avec une exception pour la bière, le vin, le cidre et le poiré. Donc en fait, tu peux te bourrer la gueule au boulot finalement, à l'exception du vin.
Ben, c'est clair.
Mais c'est fou. Après, il faut savoir qu'à l'école, il y a 70 ans, il y avait du vin rouge, même à l'école primaire, sur,
oh mon Dieu.
À la cantine, tu savais ça?
Non, ça je savais pas.
Il y a des photos de cantine scolaire où t'as, on va essayer de vous en afficher d'ailleurs à l'image si on peut, des photos où tu vois des enfants avec des verres et des pichets de rouge et tout, alors
mon
qu'ils ont 7 ans, c'est fou quoi. Dans
ça
les années 50, c'est
inconcevable.
Dingue. Est-ce qu'on peut être une femme et être croque-mort?
Oui.
Eh ben on peut pas.
Ah bon, pourquoi?
Non, ben, je sais pas, c'est la loi, c'est pas moi qui l'ai fait.
Bah écoute, faut appeler le législateur dans ce cas-là pour savoir.
On peut pas, pour s'assurer que la personne était bien morte, il fallait croquer son orteil à l'époque et on pensait que c'était trop sale pour une femme.
Ouais, d'accord, je pense pas que ce soit vraiment appliqué.
Non, évidemment, mais c'est comme mais la c'est plupart des lois, mais c'est drôle de se dire. Tu sais qu'avant, les femmes n'avaient pas le droit de porter de pantalon jusqu'à il y a 20 ans, non?
Ah, ouais.
Je crois que c'est début 2000 où ils ont changé cette loi. Que
ah oui, d'accord, ouais.
Est-ce qu'on peut s'opposer au mariage de son enfant?
Oui, on a le droit de s'y opposer, mais l'opposition n'est pas valable très longtemps de mémoire. C'est-à-dire que je crois qu'après, il y a le procureur ou il y a quelqu'un qui va statuer dessus sur l'opposition.
C'est l'article 173, ma bonne dame.
Ah bah, ma bonne dame.
Du code civil. Le père, la mère, et à défaut du père et de la mère, les aïeux ou les aïeuls peuvent former opposition au mariage de leurs enfants et descendants, même majeurs.
Après,
tu vas à la mairie, dis non, moi je veux pas.
Non mais attends, c'est normal, parce qu'en pratique, c'est des mariages dans lesquels on a des mariages forcés. C'est dans ces cas-là surtout qu'on s'oppose au mariage.
Ah oui, on a le droit de s'opposer à ça.
Mais en pratique, c'est très rare d'avoir une opposition à un mariage.
Est-ce qu'on peut se promener tout nu chez soi?
C'est plus compliqué que ça. Si personne ne peut te voir de l'extérieur, tu as le droit de te promener tout nu. Mais visiblement, la question est très importante pour toi.
Eh ben non. L'article 222-32 du Code pénal est formel à partir du moment où on peut être vu, c'est interdit, effectivement.
Voilà, c'est ça.
Donc il ne faut surtout pas qu'il y ait de fenêtres, etc. Ouais, c'est pour éviter qu'il y ait des gens qui te voient.
J'ai fait un TikTok sur ça et c'est un des premiers TikTok que j'ai fait et qui a cartonné.
Est-ce qu'on peut prendre un selfie avec une voiture de police?
Écoute, si c'est dans la rue, prendre une photo...
C'est interdit, même s'ils sont...
Mais c'est même dans un espace public?
Oui, c'est interdit de prendre une voiture de police en France, contrairement aux États-Unis. On n'a pas le droit de prendre en photo pour des raisons de sécurité, peut-être identifier les gens, etc.
Oui, intéressant, parce qu'il doit y avoir une raison qui le justifie, mais je ne la vois pas de manière évidente aujourd'hui.
Est-ce qu'on peut garer sa soucoupe volante sur la commune de Châteauneuf-du-Pape?
Effectivement, j'ai entendu parler de cet arrêt. Je crois que c'est un décret, ou c'est une circulaire qui a dû être prise, un arrêté qui a été prise par le maire. Non, tu n'as pas le droit.
C'est exactement et donc, ça. Arrêté municipal du 28 octobre 1954, c'était l'époque de la soupe aux choux. Hein, voilà. Non, c'est même pas vrai, mais c'était putain. Le maire a interdit aux ovnis d'atterrir dans sa commune.
Ouais, je la connais celle-ci, ouais.
Est-ce qu'on peut voler, alors ça c'est intéressant, est-ce qu'on peut voler un objet à quelqu'un de sa famille?
Alors, c'est plus compliqué que ça. Le vol entre époux n'existe pas, mais si je pense que tu vas chez ton neveu et que... tu prends un objet, bah dans ce cas-là, c'est du vol.
Tu peux prendre la voiture de ta femme, ça devient ta voiture.
Bah oui, bien sûr.
C'est vrai?
S'il n'y a pas de vol entre époux.
Ah oui, non, mais attends, c'est intéressant. Et sur les enfants, par exemple, est-ce qu'un enfant qui prend l'ordi de son père, un samedi, il n'a pas assez d'oseille, il va le vendre sur le bon coin, il fait le deal, est-ce que c'est
considéré? Alors, je pense que c'est plus compliqué parce que l'un des éléments de validité du vol, c'est qu'il faut qu'il y ait une soustraction frauduleuse. Donc, juridiquement, il n'y aurait pas de fraude, donc je ne pense pas qu'il y aurait du vol.
Est-ce qu'on peut poster une photo de la Tour Eiffel de nuit?
Écoute, si tu poses la question, c'est que
c'est
ça doit être...
pas.
C'est qu'on ne peut pas, mais je ne sais pas pourquoi.
Parce que les 20 000 lampes qu'ils ont mis, etc., c'est considéré comme une œuvre d'art, il y a des droits d'auteur, en théorie, on n'a pas le droit de la poster.
Oui, mais bon, il y a un moment, il y a la loi,
c'est
impraticable.
Personne ne va la respecter. La loi,
je ne suis pas d'accord avec cette loi.
C'est vrai?
D'accord, je m'indigne, je conserve ma faculté d'indignation.
Avoir un cochon qui s'appelle Napoléon, est-ce qu'on a le droit d'avoir un cochon?
Écoute, c'est plus compliqué que ça. Il y a eu une période, je crois, où c'était interdit, et depuis, c'est autorisé.
Ah, ça a changé?
Ah bah oui, ça a changé, la loi. Maintenant, on a le droit d'appeler son cochon Napoléon. Mais c'était en référence au bouquin de George Orwell, là, de 84, avec la ferme des animaux, et on n'avait pas le droit d'appeler son cochon Napoléon.
Est-ce qu'on a le droit de brûler des billets de banque?
Bah, je crois que c'est interdit, mais si t'es en privé, bah, qui saura que t'as brûlé un billet de banque?
Non, mais est-ce qu'on a le droit de le faire ou pas? Eh bien, on peut. Ça a changé depuis 1994. Il y a une loi de 1810 qui a changé. Maintenant, on a le droit de détruire des billets de banque.
Bah, en fait, ça me paraît logique parce que c'est ta propre propriété. Tu es propriétaire du billet. Donc, tu en fais ce que tu veux.
On va parler maintenant de ton boulot. Tu es parti à Londres aussi, ouais. Travailler pendant quelques années. Mmh. Est-ce que tu as vu des divorces hors de prix?
Ce qui est surprenant, c'est que j'ai commencé en droit de la famille à Londres et qu'à Londres, les salaires sont vraiment très élevés. Donc, tout de suite, je suis tombée sur des divorces avec des patrimoines très importants. Et oui, donc j'ai vu des divorces très très chers à Londres.
C'est quoi un divorce très cher, pour qu'on se rende compte, en échelle, tu vois, pas une somme précise, mais...
Un divorce très cher, ça veut dire quoi? Est-ce que c'est cher en prix? Est-ce que c'est cher parce qu'ils ont du patrimoine? Est-ce que c'est cher parce que je facture beaucoup en termes d'honoraires?
Non, combien ça coûte un divorce aux gens qui divorcent?
Aux gens, alors ça peut coûter entre 800, 900 pour un divorce sans bien, sans enfant, très simple, et ça va monter sans problème jusqu'à... 50, 100 000 euros d'honoraires pour les divorces très, très,
oui, oui.
Très, très importants.
C'est comme un mariage, quoi, finalement.
Mais oui, mais c'est pour ça que je l'ai dit. C'est un principe de réciprocité. Ouais, vous avez mis des années pour vous marier, et ben vous mettez des années, parfois, il faut du temps pour vous désunir également.
Est-ce que tu conseilles aux gens de se marier?
Est-ce que je conseille aux gens de se marier? Oui, mais. Je leur conseille de se marier s'ils ont une connaissance d'eux-mêmes suffisamment importante et s'ils ne se placent pas dans une situation de dépendance vis-à-vis de l'autre.
Ce serait quoi 5 conseils? Tu avais des conseils à donner pour bien divorcer?
Alors, pour bien divorcer, prendre le bon avocat. Je sais que c'est difficile, ça peut paraître très difficile même à certains, mais si vous n'êtes pas accompagné, si vous avez un avocat qui met hyper longtemps pour vous répondre, ce n'est même pas la peine. Ensuite, pour bien divorcer, je pense qu'il faut penser à conserver les preuves concernant l'argent et les enfants, les questions financières et concernant les enfants. Prouver que vous êtes un bon père, une bonne mère. Prouver quels sont les revenus de l'autre. Troisième conseil, accompagnement psy, ça c'est absolument indispensable. Je dis toujours aux gens, vous allez gagner des années si vous vous faites accompagner par un psy.
Non mais c'est quelque chose qui peut détruire des vies en vrai, le divorce.
Ah, oui.
Hyper attention de... Est-ce qu'il faut choisir sa femme ou son homme vraiment se dire, tiens, est-ce que ça vaut le coup que je me marie avec lui? Est-ce qu'il peut me faire chier en cas de divorce? Il faut se poser la question aussi.
Alors, le
tu sais qu'il y a des gens qui vont être plus hargneux que d'autres.
Bah, bien sûr, mais le problème c'est quoi? C'est qu'on dit toujours, quand est-ce que tu découvres avec qui tu t'es marié quand tu divorces? Donc, les gens ne savent pas avec qui ils se sont mariés. Pourquoi ils ne sont pas, ils savent avec qui ils se sont mariés? Tout simplement parce que les gens évoluent au cours de leur relation.
Ah, exactement.
Donc, en fait, ce n'est pas les mêmes. Donc, c'est impossible de savoir. Il faut accepter l'aléa.
Ça fait peur, hein, quand vous allez voir les chiffres du nombre de divorces, de combien de mariages finissent en divorce, c'est 45%. Donc, c'est quasiment... T'as une chance sur deux, en fait, tu jettes une pièce en l'air, t'as une chance sur deux quasiment de divorcer, quoi.
Ouais.
Et encore, je pense que c'est des stats qui augmentent un peu avec le temps, quoi.
Ouais.
C'est quoi les principales causes de divorce que t'as?
Alors, les principales causes de divorce, c'est des conflits sur l'argent, des conflits sur les enfants, sur l'éducation, beaucoup de violences psychologiques, parce que je fais pas mal de violences, et c'est les trois causes les plus importantes dans le divorce. Et puis, je dirais que par-dessus tout, c'est l'incapacité d'un des époux à savoir poser les limites et à se respecter soi-même.
Est-ce que tu as déjà défendu des gens de ta famille ?
Alors oui, mais je ne referai pas.
C'est vrai ?
Ils m'appellent tout le temps, ils ont l'impression d'avoir un avocat à disposition. Et puis surtout, tu as une grosse pression parce que si tu te loupes, la pression est encore plus importante parce que bah, c'est quelqu'un que tu vas côtoyer au quotidien. Donc tous les jours, il va te rappeler « mais tu t'es loupé dans mon dossier ». Déjà que je suis stressée avec un client lambda, mais alors avec la famille ou des proches,
ouais, c'est encore
risqué.
Plus compliqué. Ouais, c'est compliqué. Ça peut aller de combien de temps vraiment pour le divorce le plus court que tu aies connu au plus long ?
C'est le plus court, un mois, et le plus long, je ne sais pas, 10 ans.
Ah ouais ?
8-10 ans, bah oui, tu fais la totale, tu fais la première instance, tu fais des différents renvois, tu fais de l'appel, tu fais des procédures d'incident, tu fais des expertises, des sursis, tu fais de l'appel, tu fais de la cour de cassation, ça revient en appel, puis après tu vas à la CEDH, puis ça va dans un autre pays, ça peut ne pas en finir.
Parce que c'est le CEDH, mais j'ai acquis
la Cour européenne des droits de l'homme.
Est-ce qu'il y a des divorces qui terminent bien Les ex-époux s'entendent bien, rigolent
Oui, non, mais c'était lunaire. Mais j'en ai pas quand même énormément. Mais ça m'est déjà arrivé, c'était lunaire. Donc on signe la convention de divorce au cabinet. Ils arrivent, mais on se marre pendant le rendez-vous. On fait des blagues, c'est n'importe quoi. On signe toutes les pages de la convention de divorce. Après, on va boire un verre, on va boire une coupe de champagne pour fêter le divorce quand même. Et c'est top.
Ils boivent un coup ensemble
Oui, bien sûr, mais ils s'entendent bien, ils restent potes. Mais c'est rare.
Ouais, c'est
rare.
La personne la plus âgée qui t'a contactée pour un divorce ?
Oh, bah là, j'en ai en 65, 70 ans pour divorcer.
Il y en a qui divorcent très tard, comme
ouais,
ça.
Ouais, il y en a, mais c'est quand même assez rare. Il n'y en a pas tant que ça.
À la fin, quand il y a un divorce, c'est pourquoi les gens se battent souvent ? C'est pour les enfants, pour l'argent, pour les maisons pour...
Alors, je pense que c'est au-delà de ça. En fait, ils se battent pour conserver le lien avec l'époux dont ils vont se séparer. Tous les conflits, c'est une manière de conserver le lien. Et c'est ça qui est malsain.
Ah, c'est ça, ouais.
Ben, c'est ça qui est malsain, en fait. C'est parce qu'ils ont besoin d'être reconnus en tant que victimes. Ils ont besoin... C'est difficile d'accepter la situation. Donc,
Est-ce que tu connais des gens qui ont divorcé plusieurs fois, qui sont mariés
C'est
vrai
Mais bien sûr. Ça n'arrive pas tout le temps, mais bien sûr qu'ils se remettent en couple.
Ils se remarient.
Mais attends, mais l'amour, c'est ce qui fait vivre. D'accord. Donc, imaginez un jour... qu'une personne, tu lui dis ou elle décide d'arrêter d'aimer, c'est une manière de mourir. C'est un suicide d'arrêter d'aimer.
Putain, c'est dingue. C'est marrant. Est-ce que tu as déjà eu des gens qui sont décédés avant la fin du divorce qui s'attaquent
Alors, j'ai déjà eu une consultation. Oui, j'ai déjà eu une consultation à faire parce là, il y avait une partie de la famille du défunt qui me contactait en me disant « Mais est-ce que l'épouse va pouvoir hériter alors que le mari... est décédée avant le jugement de divorce.
Oui.
Et bah oui, en fait. Parce qu'ils ne sont pas divorcés, du coup, elle a hérité, alors que la procédure de divorce était super violente.
Oh putain.
Ça fait mal.
Et est-ce que tu as déjà des couples qui se sont mis la misère pour un objet nul, tu vois?
Ou
tu leur as dit, écoute, là, c'est une vieille voiture, on arrête. Voilà, là, c'est une vieille voiture, il n'y a plus qu'une roue.
Je dirais que c'est plutôt pour les animaux. Pour les animaux, parfois, c'est tendu.
C'est vrai ouais. Pour un chien
global. Bah bien sûr, mais en fait, on est attaché aux animaux.
Bien sûr,
donc, c'est parfois délicat.
Les gens de podcast.
C'est vrai qu'on a du mal à s'imaginer. Et qui choisit ? Est-ce qu'il y a des gardes partagés de chiens ?
Bah, ça peut arriver, je l'ai vu dans un dossier, ça suit l'enfant. L'animal suit l'enfant, du coup.
Et s'il n'y a pas d'enfant ?
C'est le juge qui statue, mais c'est absurde parce que normalement on fait tout pour aider les parties à choisir parce que sinon c'est quand même pas vraiment le rôle du juge.
Et pour le droit des enfants, alors ça c'est moins rigolo, mais j'imagine que c'est un sujet qui est vraiment c'est le plus important même dans les divorces pour plein de papas ou de mamans. Qui statue la garde ? Comment ça se passe ?
Alors, c'est une question très intéressante. Le juge qui est compétent pour statuer sur la résidence d'un enfant et le droit de visite et d'hébergement d'un autre parent, c'est le juge aux affaires familiales. Mais lorsqu'il y a des conflits lorsque l'enfant est fondamentalement en danger, dans ces cas-là, ce n'est plus le juge aux affaires familiales, c'est vraiment le juge des enfants qui va être compétent.
Est-ce que tu as déjà eu des parents, deux parents qui ne voulaient pas la garde ? Qui disent « non, mais moi, j'en veux pas », et puis l'autre aussi. Et là, tu te retrouves dans une situation...
Écoute, ça ne m'est pas arrivé. Mais je sais, il y a des parents, disons, qui mettent en place parfois des gardes alternées parce qu'ils ne veulent pas vraiment s'en occuper. Mais de là à arriver à des parents qui délaissent leur enfant, parce qu'après, c'est une procédure de délaissement parental, ça ne m'est pas arrivé. En revanche, ce qui est arrivé, c'est que des clients me contactent en me disant « il y a une procédure de délaissement parental qui a été mise en œuvre contre eux », et ils se retrouvent après devant le juge pour expliquer « bah non, il n'y a pas de délaissement parental et je veux m'en occuper ».
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/spoken today.
This message comes from BOF sponsor eBay. You'll know real when you get it. It'll say eBay Authenticity Guarantee. And you'll feel it. Maybe it's a head-turning handbag, a watch that says it all, jewelry that makes you look like the gem, or sneakers and streetwear so fresh every step feels fly. eBay gets it. So look for the blue checkmark next to that thing you love. And be confident that every inch, stitch, sole, and logo is checked by experts. With eBay Authenticity Guarantee, you can trust that feeling of real is always in reach. Ensure your next purchase is the real deal. Visit ebay.com for terms.
Ah ouais, t'as déjà vu de la violence sur les mineurs, sur les
mais
enfants.
Bien sûr, mais j'en ai
c'est un sujet, on a parlé un petit peu avant. Est-ce qu'il y a des violences qui ne sont pas visibles?
Mais bien sûr, c'est ce qu'on appelle les violences psychologiques, mais c'est ce qu'il y a de pire. Imaginez un enfant victime de harcèlement, mais il y en a plein. On parle de harcèlement toujours sur le lieu de travail, dans les couples, mais les enfants eux-mêmes sont parfois victimes de harcèlement.
Des parents, tu veux dire ?
Mais bien sûr, des parents, de leurs propres parents. Et le harcèlement, bah, ça va être souvent des violences psychologiques, du coup. Ça va être des enfants qui n'ont pas le droit d'aller dîner à table, ça va être des enfants qui doivent faire des punitions absolument démentes. C'est une forme de harcèlement, tout ça, bien sûr.
C'est quoi le pire truc que tu as vu ?
Moi, je pense que ce qui est très difficile, c'est quand j'ai des enfants qui sont victimes d'inceste de la part des parents, des enfants de 3 ans, 4 ans qui ont des MST.
Il y a des enfants de 3 ans qui ont des MST ?
Oui, bien sûr. J'ai des enfants de 3 ans et demi qui ont des MST. C'était un dossier à Lille.
Mais là, tu appelles la police ?
Ah bah, bien sûr, mais la police, dans ces cas-là, elle est déjà saisie. Mais le mal, il est déjà fait. Des enfants qui sont drogués à la kétamine.
Tu as eu ça ?
Mais oui, on a eu ça. Comment est-ce possible que des enfants soient drogués à la kétamine et qu'on arrive à laisser encore l'enfant dans les mains du parent dangereux? Et ça, malheureusement, je le vois pas régulièrement, mais ça arrive.
La loi, enfin, le juge décide de le laisser quand même. Mmh. Pourquoi?
Parce qu'il y aura un manque de preuves. La kétamine, par exemple, dans ce dossier, c'est une drogue qui est très difficile, qui disparaît rapidement, en 48 heures. Et du coup, ça veut dire que les analyses qui étaient effectuées par la mère sur sa fille ont été jugées comme n'étant pas suffisamment, probantes, parce qu'elles n'étaient pas effectuées dans un cadre légal et qu'en somme, elle s'est déplacée tout de suite chez les analyses biologiques, les analyses médicales pour effectuer ça, et la preuve n'était pas considérée comme probante.
Et pourquoi ils donnent de la kétamine à des enfants ?
Pour les endormir, pour qu'ils réagissent pas. En fait, c'est une drogue qui est donnée par les vétérinaires, notamment, pour faire des opérations sur les animaux. C'est la drogue du cheval.
Mais non.
Mais si.
Et pour qu'ils fassent des nuits entières ?
Pour qu'ils fassent des nuits entières, oui, pour profiter de faire des viols, des attouchements sexuels sur les enfants.
Ah oui, pas juste pour les nuits, pour juste qu'ils dorment déjà.
Non, c'est pour...
Ah waouh. Et t'as une histoire aussi avec une ceinture d'un petit garçon, qu'est-ce que c'est ?
En fait, cet enfant, c'est un enfant de 6 ans qui avait posé la question à un éducateur spécialisé en lui demandant « Pourquoi tu portes une ceinture ?» Et l'éducateur spécialisé lui a répondu « Pour tenir mon pantalon. » Et l'enfant lui a répondu à ce moment-là « Non, je pensais qu'en fait, c'était seulement pour taper la ceinture, pour faire mal. »
Ah ouais. Ouais, donc c'est qui est chez lui, il prend des coups de ceinture.
Ouais, tu te rends compte.
Ouais, en fait, c'est ça, c'est dans les mots des enfants, tu peux comprendre un peu ce qu'ils veulent dire, quoi.
Et c'est tout le problème de la violence, c'est qu'on la normalise. On pense qu'elle est normale et après, quand on subit des violences, eh bien, les enfants, les adultes ne se rendent plus compte de ce qui est normal ou de ce qui n'est pas normal.
Tu as des changements de nom aussi. Des gens qui te demandent, on en parlait tout à l'heure.
Oui.
Comment ça se passe ? C'est parfois des enfants, des adultes ?
Bien sûr.
Quoi ?
En fait, ça peut être des adultes qui veulent changer de nom. Alors, ça, c'est avant le changement de loi, parce qu'aujourd'hui, c'est très facile, je te l'ai dit, de prendre le nom de sa mère ou de son père. Mais je me souviens d'un dossier où la cliente portait le nom de son père qu'il avait violé pendant des années et elle avait voulu faire un changement de nom, justement pour ne plus porter le nom de son violeur.
Et ça a été accepté ?
Oui, ça a été accepté.
Ok. Parce que ça peut être refusé, les changements de nom ?
Bien sûr, ça peut être refusé. Et en fait, le problème, c'est que c'est une procédure qui a été effectuée, qui peut être encore effectuée quand c'est refusé, où on pense que c'est facile, c'est légitime de changer de nom. Et comme tous les dossiers, c'est mieux d'être accompagné.
Est-ce que tu as eu des zinzins, des originaux, qui ont voulu changer de nom pour prendre le nom d'une personnalité connue ?
Non.
Genre, ça s'appelait Zidane, Alidé.
Non, mais attends, des originaux, on en a tout le temps au cabinet, mais là, on les recadre tout de suite. Merci pour ta question, elle est drôle.
Non, on ne peut pas choisir de s'appeler comme on veut non plus.
Non, on ne peut pas, non.
C'est-à-dire que tu dis, tiens, je prends le nom de ma mère ou de ma grand-mère, tu dois choisir un truc, j'imagine.
Sauf si, tu vois, t'as un prénom avec une insulte ou des vrais, un vrai problème dans ton prénom, dans ce cas-là, tu peux changer, mais sinon, non.
D'accord, d'accord. Et t'as eu un professionnel de santé aussi. Alors ça, c'est fou. On va pas dire qui, quoi, machin ou comment, mais t'as eu un professionnel de santé qui faisait des choses sur ses clients.
Eh ben, en fait, c'est un professionnel de santé qui filme ses clients, ses clientes, quand elles se changent dans la salle. Et il est également violent avec sa femme et se drogue également.
Un bon gars, quoi.
C'est triste.
Pour tous les parents et tout, c'est intéressant. T'as des enfants qui mangent du cannabis.
Ouais, alors je tiens à dire que c'est pas les parents qui leur donnent dans leur assiette du cannabis, mais en général, ça m'est arrivé 2-3 fois, donc ça m'a quand même marqué. Je pensais que c'était anodin à la base, mais non. C'est des dossiers où c'est des enfants qui rampent, qui marchent à quatre pattes, et ils trouvent des morceaux de cannabis et ils les mangent, et après ils sont obligés d'avoir des lavages de ventre parce qu'ils ont mangé du cannabis. Et en fait, je suis au courant du dossier dans quel cadre, parce que forcément les pompiers, ils vont faire à l'hôpital, ils vont faire un signalement, une information préoccupante, et ça se retrouve devant le juge des enfants.
Et comme tu es dans les affaires des familles, est-ce qu'il y a un profil type sur les violences entre les hommes et les femmes, dans les couples violents, on va dire les couples, parce qu'il y a aussi des violences parfois de femmes sur les hommes.
Bien sûr.
On va en parler de l'association Hommes Battus.
Oui, tout à fait.
Je ne savais pas qu'il y en avait autant, en fait. C'est intéressant d'en parler dans les deux sens. Y a des profils types de gens ou de femmes qui tapent
Les violences peuvent être commises tant par les hommes que par les femmes. Il n'y a pas de différence. Ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, on parle davantage des violences subies par les femmes. Dans mes dossiers, je vois systématiquement les mêmes schémas en matière de violences. C'est-à-dire que ça commence tout le temps par des violences psychologique et ensuite c'est des violences physiques. Les violences psychologiques, elles commencent comment ? Elles commencent par des rabaissements, de l'intimidation, du flou dans les réponses, de la victimisation de la part de l'auteur, de la manipulation, une dépendance financière qui est mise en place, une dépendance affective, même parfois une dépendance en termes de géographie qui est mise en place. Et c'est toujours le même schéma. Et ce schéma, il précède toujours les violences psychologiques. Les violences physiques, je veux dire.
C'est-à-dire quoi en termes de géographie ?
C'est-à-dire un éloignement d'un membre de l'époux, d'un époux par exemple qui va quitter sa région natale pour aller rejoindre son époux ou son compagnon. Et donc cette personne qui quitte tout se retrouve isolée, plus d'amis, plus de famille, tout le monde est loin.
C'est quoi l'excuse la plus bidon que t'as entendue ? J'ai tapé mon conjoint ou ma conjointe, t'as entendu des excuses de genre j'ai jeté un téléphone, il y a eu des histoires comme ça déjà, j'ai voulu jeter un téléphone et bon bah elle l'a pris...
Oui, non, mais en fait ça nous arrive tout le temps. On a des clients qui nous disent je l'ai poussé et puis après on va consulter le dossier pénal et on s'aperçoit qu'elle a un bleu énorme sur le visage. Mais pas un petit bleu, 10 jours d'ITT, des trucs de fou.
Ah oui,
hein.
D'accord. Wow.
Donc en fait... les personnes qui sont auteurs de violences, forcément, la plupart du temps, ont une forme de honte. Et ça, donc, c'est leur ressenti. Mais nous, notre travail, c'est de les mettre aussi face à la réalité et de les défendre le mieux possible. Et donc, on leur explique, à un moment, ça ne sert à rien de mentir et prendre le juge, en quelque sorte, pour un idiot. Donc, voilà.
Est-ce que, et tu parlais de SOS Hommes Battus, t'as fait partie de cette
association ? Oui, j'ai fait partie de cette association, mais en fait c'est eux qui m'ont contactée parce que j'ai un groupe Facebook où je parle des violences et ils m'ont contactée par Facebook en disant c'est bien de parler également des violences qui sont subies par les hommes parce qu'ils en subissent également et j'avais envie tout simplement de qu'ils sachent qu'ils vont être écoutés et qu'ils ne vont pas être jugés pour ces violences.
Il y en a.
Mais bien sûr qu'il y en a.
Et donc c'est leur femme qui est violente avec eux.
Oui, bien sûr.
Et ils ne se défendent pas, ils n'essaient pas de la...
Si, la plupart du temps, pas trop. Hein. Très peu même. Parce qu'en fait, dans le mécanisme de violence, on trouve toujours une excuse à l'auteur des violences. Mais il était de mauvaise humeur, mais il était bourré, mais il était énervé sur ça. Parce qu'en fait, on s'est habitué à la violence. C'est ce que je vous explique. Les victimes s'habituent à la violence.
Il y a une phrase que tu as marre d'entendre, que tu entends souvent plutôt. Oui. C'est pourquoi tu restes avec un mec comme ça ? Pourquoi tu ne le quittes pas ? Pourquoi ça, tu entends souvent ?
Mais ça, je ne le supporte pas. Mais pourquoi tu restes avec une femme comme ça ? Pourquoi tu restes avec un homme comme ça ? Et en fait, c'est une phrase que je ne supporte plus. Parce que les personnes qui sont victimes de violences n'arrivent pas à partir. Elles sont victimes de manipulation, elles sont sous emprise. Elles n'arrivent pas à partir. Donc vous allez dire à quelqu'un qui est sous emprise, c'est-à-dire avec les mêmes effets qu'une dérive sectaire, mais pourquoi tu pars pas ? Elle ne peut pas partir, ce n'est matériellement pas possible. Il faut l'accompagner, il faut l'aider à s'en sortir.
Quand tu dis matériellement, c'est de l'argent
L'argent, psychologiquement. Elles n'ont pas la force psychologique. Ou ils n'ont pas la force psychologique de partir. Ils sont dans un état de confusion mentale, ils n'arrivent plus à penser, à dormir.
Et tu disais que tu voyais passer pas mal de pervers narcissiques. Mmh. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Parce que c'est un peu un mot qui est arrivé il y a 4-5 ans, qu'on entend beaucoup. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement?
Alors déjà, je trouve qu'il y a une forme de dérive sur ce mot, ça est utilisé un petit peu trop. J'ai beaucoup de clients qui arrivent et qui me disent bah voilà, je suis victime d'un PN. Et je m'aperçois après que ce n'est pas vraiment le cas, d'après moi. Et alors, que ce soit vrai ou non, ce terme, ce qui est sûr, c'est que ce que j'observe, c'est qu'on a un phénomène de société sur un comportement qui valorise la triche, qui valorise le mensonge, puisque aujourd'hui, les dossiers avec des personnes victimes de pervers narcissiques, c'est la même chose tout le temps. C'est ce que je vous ai décrit en matière de violence conjugale. Donc, l'arsenal juridique permet en théorie de mettre un terme à ces violences psychologiques, sauf que comme c'est très difficile de prouver ces violences psychologiques, ben, si vous n'avez pas l'aide d'un avocat qui vous alerte sur le fonctionnement des PN, et ben, dans ces cas-là, la rupture, elle se fait dans la violence et ça se passe mal pour les victimes.
Est-ce que tu as déjà eu un pervers narcissique, un PN.
Un PN, s'il vous plaît.
Excusez-moi. T'as déjà eu ça, un tribunal, un mec qui arrive à manipuler tout le tribunal?
Alors, vous t'imagines bien que manipuler un tribunal, ça ne veut rien dire, en fait. Parce que, bien sûr, on ne va pas aller donner de l'argent à un juge. Donc déjà, cette manipulation, l'achat du tribunal d'un juge, ça ne se fait pas. En revanche, manipuler la présentation des faits, moi, j'aime pas le terme manipuler parce qu'en fait, c'est notre travail de présenter les choses sous le meilleur jour possible. Mais la force des pervers narcissiques aujourd'hui, c'est qu'ils ont ils sont en général très forts pour rassembler des preuves, pour créer des preuves, pour mentir, faire des faux mails, trouver des fausses attestations, se faire passer pour des victimes. Et c'est ça qui est dangereux, c'est qu'ils arrivent à manipuler la réalité.
Est-ce que tu as déjà eu un client dont tu aurais pu tomber amoureux ou tu es tombée amoureuse d'un client?
Alors, je suppose que tu le sais ou peut-être pas, mais tu sais que c'est totalement interdit.
Alors,
de tomber amoureux d'un client.
Parce que 80% des couples se font au travail. Donc, je te demande si c'est parce que toi, c'est des gens que tu croises le plus dans la journée, j'imagine. Ouais.
Bah non, en fait, les clients, on les voit au premier rendez-vous, on les appelle, on les voit en général pour un autre rendez-vous et à l'audience ou dans le cadre d'une médiation. Donc, finalement, on les voit assez peu.
Et pour prouver parfois leur infidélité, est-ce qu'il t'envoie, pour prouver l'infidélité de sa femme ou de son homme, est-ce que parfois il t'envoie des photos de leur femme nue avec un autre? Est-ce que t'as des...
Non, mais tu sais que je suis avocate en droit de la famille, donc c'est-à-dire que la fidélité, l'infidélité, je la vois tous les jours. Je reçois régulièrement des photos de sexe, d'hommes, de femmes, des photos coquines, des photos de Paris, non, mais c'est dément ce
qui se passe. Des photos de Paris?
Oui, des photos de Paris avec, comment dire...
La Tour Eiffel.
Oui, avec la Tour Eiffel, avec un commentaire comme ça, Paris sera toujours en toi. Mais on voit des trucs de fous.
C'est-à-dire que c'est les mecs qui screenent les photos ou les filles sur le portable de leur mec, etc., pour montrer qu'ils envoient ça, quoi.
C'est ça, pour prouver l'infidélité, sachant que ça ne sert à rien de prouver l'infidélité, hein, grosso modo, dans un divorce.
Ah oui?
Bah non, grosso modo, il ne se passera pas grand-chose.
Mais ça ne changera pas.
Il y aura un divorce pour faute.
Oui.
Si, c'est interdit d'être infidèle, mais on a une évolution de la jurisprudence qui fait que l'appréciation de l'infidélité est de plus en plus large. Supposons que, il y a un époux qui est au courant que sa femme est infidèle pendant des années et qui ne fait rien, bah vous t'imagines bien qu'il ne va rien se passer juridiquement.
Oui, tu ne peux pas dire d'un coup, je l'ai découvert,
j'ai envie
de partir, quoi. Apparemment, le métier d'avocat, c'est un des métiers les mieux payés de France. Est-ce que tu confirmes ça? C'est quoi l'échelle, grosso modo?
Alors, je pense que c'est assez délicat de répondre à cette question parce que les salaires, les revenus des avocats sont très variables. Entre un avocat qui va exercer seul dans son cabinet d'avocat et qui va peut-être avoir du mal à payer toutes ses charges et un avocat qui va exercer dans une très grande structure avec des salaires à 30 000 euros par mois. Donc, l'écart de salaire est très important. Ça va aller peut-être de 1 500 à 30 000 euros par mois. Donc, c'est
important. Ah oui, d'accord.
Ouais, c'est très variable.
T'adaptes un peu à la tête du client, revenu
Alors, physiquement, je ne m'adapte pas à lui. Je ne m'adapte pas au client. Mais
la tête du client,
enfin,
au
compris.
Métier qu'il fait.
Je joue sur les mots. Ce qui est sûr, c'est
qu'en fait...
T'es
une vraie avocate.
C'est une obligation légale, une obligation déontologique de s'adapter à la fortune du client. Mais on s'adapte également à la complexité du dossier.
Il y a des avantages à être, tu vois, on avait noté journaliste, t'as une carte de presse, tu peux accéder à des trucs, EDF, tu ne payes pas l'électricité. Quand tu travailles dans des compagnies aériennes, tu payes 10% du billet sur certains vols familiaux. Est-ce qu'il y a des avantages à être avocat?
Des avantages à être avocat?
Réel, en off, pas trop connu, mais où tu te dis, tiens, c'est cool quand même.
Ah, c'est génial, je peux rentrer au tribunal avec ma carte sans me faire fouiller, ça c'est génial. Franchement, j'en connais pas tant que ça. Je crois qu'il y a un macaron pour mettre sur sa voiture, mais comme j'habite à Paris, j'ai pas de voiture.
Il n'y a pas trop d'avantages méconnus finalement?
Bah non.
C'est quoi le plus gros? Enfin, on parle de l'avantage, mais l'inconvénient.
L'inconvénient,
ouais.
Je dirais que c'est l'équilibre entre la vie personnelle et la vie professionnelle. C'est un équilibre qui est difficile à trouver. Et malheureusement, il y a beaucoup d'avocats qui ne parviennent pas à le trouver. Moi, je suis heureuse parce que j'ai réussi à le trouver, à m'occuper en même temps de ma famille et à trouver cet équilibre avec le travail. Mais je pense que c'est la difficulté principale. Et puis l'autre difficulté, je sais que je ne réponds pas à ta question, mais je suis obligée de le dire.
Je vais te la reposer, c'est pas grave.
À la deuxième partie de la question, c'est quand même une responsabilité parce qu'on est au cœur des dossiers. Et quand on perd un dossier, quand on sait que le juge s'est loupé, eh bien, c'est quand même une souffrance monstre qu'on vit également avec notre client. On ne peut pas simplement rentrer à la maison et se dire bah, « j'ai bien fait mon travail, tout va bien ». Non, on a un autre stade.
Toi qui bosses toute la journée sur des trucs d'infidélité, de galère, de machin, est-ce que tu crois encore au couple ?
Ah, mais tout le monde me pose la question, j'ai fait un post LinkedIn sur ça. Avant-hier, est-ce que tu crois encore à l'amour ? Mais bien sûr que je crois encore à l'amour.
C'est
pourquoi
pas ma question, j'ai pas dit l'amour. Ah, tu changes, tu déformes mes mots. Hein.
Bah écoute, toi aussi tu pourrais être avocat.
est-ce que tu crois encore à la fidélité dans le couple ?
Alors, je crois à une notion évolutive de la fidélité. C'est-à-dire que... aujourd'hui,
c'est déjà moins clair.
Ce que je constate, c'est qu'il y a énormément de couples qui se séparent à cause d'une infidélité, en tout cas en apparence. Sauf que l'infidélité, selon moi, n'est pas une cause qui doit mener à une séparation. À moins qu'elle soit pathologique, que ce soit caché depuis des années et qu'il y ait vraiment une autre liaison qui ait duré des années. Mais je pense que le vrai problème, c'est qu'on se place systématiquement en victime quand on est victime d'infidélité. Parce que la société nous dit « mon Dieu, vous avez été victime d'infidélité ». Mais c'est beaucoup plus compliqué que ça. Il vaut mieux interroger le couple et la relation et la responsabilité de chacun dans cette infidélité plutôt que de rompre. Et venez, je dis plutôt aux gens, venez me voir, on va en parler, je vais vous aider à dépasser ça plutôt que de rester dans cette situation bloquée.
C'est un peu assistante sociale, là, au conseil psychologique sexuel.
Un petit peu, ouais.
C'est vrai, c'est un peu ça ton métier.
On nous dit toujours, quand on fait l'école d'avocat, vous n'êtes pas assistante sociale, vous n'êtes pas psy. Sauf que les gens, ils ont besoin d'avoir un conseil global. Et puis, notre expérience en tant qu'avocat, elle est utile, même d'un point de vue psychologique.
Est-ce que tu es mariée, tu as des enfants ?
J'ai une petite fille.
Est-ce que tu fais beaucoup plus attention quand tu es en couple avec quelqu'un, à ses messages, à s'il y a des dans le tiroir que tu ne connaissais pas ?
Pas du tout.
Un Tour Eiffel ?
Non, je ne fais pas plus attention. Et c'est peut-être d'ailleurs une erreur, parce que c'est ce qui m'a conduit à une séparation dans le passé. Mais je ne suis pas plus alerte parce que je considère que l'une des erreurs qui est commise aujourd'hui par les couples, c'est de vouloir contractualiser systématiquement leur relation, c'est-à-dire de prévoir toute leur relation, alors que l'essence de l'amour, c'est de ne pas prévoir, c'est d'accepter cet aléa. Et vouloir contrôler cet aléa, c'est un tue-l'amour pour moi.
Juste pour dire, est-ce que tu as des soucis à cause de ta chaîne TikTok ? C'est comme ça qu'on t'a découvert et tout.
Oui.
Est-ce que tu as eu des galères
Je suis convoquée à l'ordre pour ma chaîne TikTok parce qu'en fait, on n'a pas le droit de porter la robe quand on est avocat sur les réseaux sociaux, en tout cas à ce jour.
Ah, c'est vrai ?
Oui, c'est vrai.
Alors que ta chaîne sert plutôt à donner envie d'être avocat, ça peut créer des vocations.
Exactement. Et puis surtout, ça permet de nous identifier parce qu'on est la seule profession à pouvoir donner du conseil juridique. Et aujourd'hui, ça permet de m'identifier en tant qu'avocate. Elle peut donner du conseil juridique, elle a le droit de donner du conseil juridique. Alors qu'il y a plein de personnes qui essaient, en quelque sorte, de donner du conseil juridique alors qu'ils ne sont pas avocats, qu'ils n'ont pas passé les diplômes. Et c'est une façon, à mon sens, de protéger la profession.
Pour finir, j'ai lu que tu allais être le premier cabinet d'Europe sur le métaverse.
Je suis.
Tu es ?
Oui.
Mais il y a du monde qui vient sur le métaverse.
Mais oui, il y a des clients qui viennent. En fait, on leur donne rendez-vous sur le métaverse et ça permet de donner une autre image de l'avocat parce qu'en fait, j'ai créé un monde ludique, en quelque sorte.
Cette phrase, j'ai créé un monde.
Mais oui, mais c'est un monde, c'est un autre monde. Un cabinet d'avocat avec une piscine, avec une bibliothèque, avec une salle de musique. Et puis, ce qui est génial dans le métaverse, c'est qu'on a créé un univers dans lequel 600 personnes peuvent se retrouver. Et ensuite, ils peuvent aller tous discuter ensemble. Dans le quotidien, ce n'est pas possible d'aller parler facilement à des gens. Et bien là, tu peux aller parler à n'importe qui.
Merci, Louise.
Avec plaisir.
C'était hyper intéressant. En fait, non seulement avocat, mais sur le droit du travail et tout, il y a plein de questions, je pense. Ça a répondu à plein de questions que les gens se posent.
Ouais.
Merci mille fois. Je mets tes réseaux en dessous, en cliquable sous la vidéo, si vous voulez aller voir les réseaux d'Héloïse. Donc, je mets ton LinkedIn, ton TikTok et Insta.
Oui, tout à fait, ce serait top. Et mon site.
Et ton site, vas-y, on met tout ça en dessous, en cliquable si vous voulez. Continuez de vous abonner, les gars, à nos réseaux sur Légende. Merci beaucoup. Mettez des commentaires si vous avez des idées de métiers aussi originaux comme Héloïse pour venir et qu'on puisse les recevoir. Et si jamais vous voulez prendre deux secondes pour vous abonner à notre Insta, c'est pareil, c'est LEGEND. Donc merci beaucoup à tous. Merci.
Merci.
Tu check. Merci beaucoup d'être venu.
Avec plaisir.
Légende Podcast. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am, but Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
This message comes from BOF sponsor eBay. You'll know real when you get it. It'll say eBay Authenticity Guarantee. And you'll feel it. Maybe it's a head-turning handbag, a watch that says it all, jewelry that makes you look like the gem, or sneakers and streetwear so fresh every step feels fly. eBay gets it. So look for the blue check mark next to that thing you love and be confident that every inch, stitch, sole, and logo is checked by experts. With eBay Authenticity Guarantee, you can trust that feeling of real is always in reach. Ensure your next purchase is the real deal. Visit ebay.com for terms.
Vous venez d'écouter un épisode de Légende. Retrouvez cette interview et toutes les autres sur nos réseaux sociaux, YouTube, Instagram, Snapchat et TikTok. Vous tapez Légende, L-E-G-E-N-D. Et si vous avez aimé ce podcast, abonnez-vous et pensez à lui mettre 5 étoiles. Merci.